Il est l'heure du journal avec vous, Aurélie Kiffer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Donald Trump a bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden. Du grain à moudre pour les démocrates qui lancent une procédure de destitution à l'encontre du chef de la Maison-Blanche. Nous irons à Washington dans un instant. Certains des impacts dévastateurs du réchauffement climatique sont déjà irréversibles, avertit le GIEC. Montée du niveau des eaux, île menacée de submersion, fonte des glaciers. Nous ferons le point dans un instant avec notre spécialiste Véronique Reberotte. L'État doit rapatrier les enfants français retenus dans des camps en Syrie, plaide la Commission nationale des droits de l'homme. 300 enfants survivent dans une situation humanitaire désastreuse, souligne la CNCDH. Le regroupement des entreprises de l'audiovisuel public coïncidera avec une réforme de la redevance, de quoi inquiéter syndicats et salariés. Nous ferons le point avec Maxime Tellier. Les démocrates américains annonçaient hier le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump. S'ils se sont décidés à se lancer dans cette procédure rare et risquée politiquement, c'est qu'ils ont obtenu de nouvelles informations qu'ils jugent préoccupantes sur le locataire de la Maison-Blanche. Un échange téléphonique entre Donald Trump et le président ukrainien, échange au cours duquel le président américain aurait demandé à son homologue d'enquêter sur Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, bien placé pour l'affronter lors du scrutin de 2020. Et aujourd'hui, Grégory Phillips, le contenu de cette conversation a été dévoilé par la Maison-Blanche.
Oui, le dialogue a eu lieu le 25 juillet au matin. Il a duré 30 minutes et la Maison-Blanche en révèle donc le contenu en déclassifiant ce document. Il ne s'agit pas d'un enregistrement, mais d'une compilation des notes et souvenirs des conseillers qui se trouvaient présents à ce moment-là autour de Donald Trump. Malgré cela, le document qui fait 5 pages est assez détaillé. Et surtout, on note cet extrait. Donald Trump s'adresse au président ukrainien nouvellement élu, Zelensky, et lui dit « Je voudrais vous demander une faveur. Ici, on parle beaucoup du fils Biden et du fait que Joe Biden a arrêté l'enquête. Enquête qui le visait. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet, donc ce serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus. » Puis le président américain propose de mettre en relation les autorités ukrainiennes avec son ministre de la Justice William Barr et son avocat Rudy Giuliani. Il y a donc clairement une demande de la part de Trump d'enquêter sur le fils d'un rival politique. En revanche, il n'est jamais fait mention de l'aide militaire américaine qui avait été promise à Kiev, mais le document en vérité est assez accablant pour la Maison Blanche. Tout à l'heure, tout le monde aura les yeux rivés sur la rencontre Trump-Zelensky prévue de longue date et qui aura lieu en début d'après-midi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Grégory Phillips en direct de Washington. Et Donald Trump réagit en accusant une nouvelle fois les journalistes d'être corrompus et de relayer de fausses informations. Il n'y a eu aucune pression, assure le président américain. Vous avez inventé toute cette histoire. En fait, ce n'était rien d'autre qu'une conversation au téléphone entre deux dirigeants pour se dire leur sympathie. Fin de citation. Les États-Unis renforcent leur pression économique contre l'Iran. Le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, annonce des sanctions contre des sociétés chinoises accusées de transporter sciemment du pétrole depuis l'Iran en violation de l'embargo américain. Téhéran faisait de l'allègement des sanctions un préalable à tout dialogue direct avec Washington. Ces annonces n'ont rien arrangé. Et le président iranien qui vient d'intervenir devant l'Assemblée générale des Nations Unies déclare qu'il refuse toute négociation. On retrouve Christian Chesneau à New York.
Sans surprise, il n'y aura pas de rencontre entre Donald Trump et le président iranien. Hassan Rouhani vient de le faire savoir à la tribune de l'ONU. Pour lui, ce rendez-vous au sommet avec le locataire de la Maison Blanche doit couronner les négociations et non pas intervenir à leur commencement.
Au nom de ma nation, de mon État, j'aimerais annoncer que notre réponse à toute offre de négociation alors que des sanctions nous sont imposées, est négative. Plutôt qu'un simulacre de négociation, vous pourriez revenir à la réalité des négociations. La séance photo est la dernière étape des négociations, pas la première.
C'est donc une fin de non-recevoir, malgré les efforts de médiation d'Emmanuel Macron, qui espérait ce geste symbolique à New York. Sur le dossier du Yémen, Hassan Rouhani a indiqué la disponibilité de l'Iran à résoudre le conflit. Il s'est également dit prêt à coopérer pour la sécurité dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre d'une coalition de l'espoir.
Christian Chesneau à New York. La compagnie pétrolière saoudienne Amraco, dont deux sites avaient été endommagés par des frappes revendiquées par les rebelles houthis du Yémen, annonce qu'elle a rétabli ses capacités de production. Les députés britanniques ont repris leurs travaux ce matin. Le Parlement était suspendu depuis le 10 septembre et devait le rester jusqu'au 14 octobre. Mais la décision de Boris Johnson a été jugée illégale par la Cour suprême britannique. Le Premier ministre doit faire un discours devant la Chambre des communes. Mais il est pressé de démissionner par l'opposition et l'ambiance au Parlement est électrique. Marie-Pierre Véraud.
Oui, et c'est avec un plaisir non dissimulé que John Bercow, le président du Parlement britannique, a accueilli les députés tout à l'heure, ramenant le calme dans le brouhaha de rentrer par son célèbre rappel à l'ordre.
Welcome back to our place of work.
Bienvenue chez nous, bienvenue sur notre lieu de travail, a-t-il lancé à ses collègues. Le Parlement qui en fait reprend sa session puisque la Cour suprême a jugé cette suspension non seulement illégale mais nulle et non avenue. C'est donc comme si elle n'avait jamais eu lieu. Nul doute que le Premier ministre qui a fait connaître son désaccord avec les juges depuis New York ne se privera pas de lancer quelques piques lors de son intervention qui est très attendue en effet aux communes. Dans l'intervalle, c'est son conseiller juridique Geoffrey Cox qui a chauffé la salle et les esprits lorsqu'il a fustigé cette chambre accusée de couardise parce qu'elle refuse de voter une motion de défiance et de convoquer dès à présent des élections générales anticipées.
This Parliament is a dead Parliament. Yes.
Ce Parlement est un Parlement mort, dit-il. Il ne devrait plus siéger. Il n'a aucun droit moral d'occuper ces bancs. Ce Parlement est une honte. Le ton est donné, chacun campe sur ses positions. Le gouvernement et son Premier ministre vont continuer sans doute d'en appeler au peuple à ce scrutin anticipé qui promet de tourner à l'avantage des conservateurs, du moins si on en croit les sondages, quand l'opposition, elle, continuera à tenter de gagner du temps et de sécuriser d'abord un report du Brexit au-delà du 31 octobre. Bref, les acteurs de cette série, sans doute l'une des plus haletantes de la BBC, ont repris leur place sur les bancs verts des communes, mais une issue rapide n'est toujours pas en vue.
Marie-Pierre Véraud. Pas de divine surprise dans le rapport du GIEC. Les experts du climat confirment ce qu'ils avaient déjà dit et répété. Le réchauffement climatique est en route. Certaines de ses conséquences sont irréversibles. Et pour limiter ses effets, il est urgent de prendre des mesures radicales pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Bonsoir Véronique Ruberotte.
Bonjour.
Selon les scientifiques, le niveau des mers pourrait s'élever d'un mètre d'ici 2100, soit 10 fois plus qu'au XXIe siècle. Des villes seront englouties, des rivières s'assécheront et la faune marine s'effondrera. Ils alertent également sur la fonte des glaciers le jour même où l'on apprend qu'un glacier du versant italien du massif du Mont Blanc menace de s'effondrer.
Oui, c'est toute la cryosphère, à savoir les calottes glaciaires, les banquises, les sols gelés, la neige, les glaciers de montagne. C'est donc toute cette cryosphère qui est en train de disparaître sous l'effet du réchauffement. La fonte des deux calottes glaciaires, Antarctique et Groenland, nous dit le GIEC, est la principale source de la montée du niveau des océans. Même disparition accélérée des glaciers dont dépendent donc plus de 2 milliards de personnes. Pour l'eau douce, disparition irréversible de nos propres glaciers, à nous, dans les Alpes, les Pyrénées, même en limitant le réchauffement. Samuel Morin est glaciologue au CNRS.
Les glaciers perdent de la masse depuis plusieurs décennies et un certain nombre de glaciers de basse altitude ont déjà disparu dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Il y a un exemple en France, le glacier de Sarène à côté d'Alpe d'Huez. Un jour, il ne deviendra plus qu'un petit glaçon et puis ce sera fini. Les glaciers sont soumis à une réduction très forte de leur masse. Et c'est quelque chose qui est amené à se prolonger au XXIe siècle, à se poursuivre à l'échelle de l'ensemble de la planète. Alors les conséquences principales sont une modification du régime hydrologique, de la façon dont l'eau est disponible dans les rivières. Donc il y a des enjeux sur l'eau, il y a des enjeux sur l'alpinisme, sur la façon dont on interagit avec ces glaciers. Et ça a aussi un impact culturel sur la relation qu'on entretient avec le monde naturel, avec les glaciers. La baisse de l'enneigement, le recul des glaciers, ça perturbe considérablement l'identité culturelle des populations, autochtones ou pas, qui vivent dans les zones de montagne.
Et le rapport du GIEC nous dit que ce sont 670 millions de personnes qui, à travers le monde, vivent dans des régions de haute montagne, près de glaciers menacés de disparition et qui sont donc sous la menace d'un manque d'approvisionnement en eau dès demain. Cet après-midi, la ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, commentant ce rapport du GIEC, s'est dit confortée dans sa volonté, celle de la France, de mener une politique de transition écologique. Il y a un bon moyen de le démontrer dès ce vendredi, estime Pierre Canet du WWF.
Le message d'un gouvernement après de telles conclusions scientifiques, c'est de redoubler d'efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est de présenter des moyens financiers pour accélérer la transition écologique. Justement, le gouvernement est censé présenter vendredi son budget. Ce budget sera-t-il aligné avec l'accord de Paris ? La France trouvera-t-elle les dizaines de milliards qui sont nécessaires pour avancer et accélérer la rénovation énergétique, puisque nous avons du retard dans les bâtiments. Ces moyens seront-ils mobilisés pour aller dans les transports en commun et renforcer l'usage des modes doux ?
C'est pas certain.
Ça n'est pas encore certain. Nous n'avons pas de garantie que ce budget soit aligné avec l'accord de Paris.
De l'action à vite en France ou ailleurs, ce sont les réactions unanimes à travers le monde à sa publication de ce premier rapport donc, du GIEC sur les océans, publié, rappelons-le comment, tout de même au lendemain d'un sommet climat aux Nations Unies qui n'a rien donné.
Véronique Rebérot. La France aura son premier budget vert en 2021. Le budget de l'État intégrera une évaluation de l'ensemble des recettes et dépenses en fonction de leur impact sur l'environnement. Ça ressemblera à une sorte de Nutri-Score adapté au budget, Marie Viennot.
Le budget vert, tel que proposé par l'Inspection générale des finances, prend en compte 6 objectifs environnementaux. La lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi l'adaptation à ce changement et la prévention, la gestion de la ressource en eau, l'économie circulaire, les déchets, la prévention des risques technologiques, la lutte contre la pollution, la biodiversité et la gestion durable des espaces. Comme il est impossible de trouver un indicateur unique permettant de concilier ces 6 objectifs parfois contradictoires, l'IGF a proposé 5 couleurs. Vert foncé, la dépense directement très favorable. Vert plus clair, impact favorable mais indirect. Vert anis, favorable à court terme mais controversé. C'est le cas typique du nucléaire. Favorable pour réduire l'effet de serre mais défavorable pour les déchets et les risques. Blanc, neutre ou non mesurable. Et marron, défavorable. Cette grille en tête, l'IGF a trouvé pour le budget 2019 25 milliards d'euros de dépenses défavorables à au moins un des 6 objectifs et 35 milliards d'euros favorables. Ce qui ne veut pas dire qu'au final, le budget 2019 fut plus vert que marron. Un euro de dépenses en faveur des énergies éoliennes, par exemple, n'annule pas symétriquement les effets néfastes d'un euro de défiscalisation pour le kérosène du secteur aérien. Mais au moins, avec cette grille, les contradictions des politiques publiques sur l'environnement se trouvent désormais clairement et synthétiquement exposées.
Les enfants de djihadistes retenus dans les camps syriens doivent être rapatriés au plus vite avec leurs parents. C'est l'avis de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui invoque l'intérêt supérieur de l'enfant et rappelle la situation humanitaire désastreuse dans ces camps. Florence Turm.
Le 21 mai dernier, la CNCDH s'était auto-saisie du sujet et son président Jean-Marie Delarue avait adressé une lettre publique au Premier ministre dans laquelle il exprimait sa grande préoccupation et demandait déjà le rapatriement des enfants français retenus dans les camps syriens. Face à la réponse négative du gouvernement qui privilégie le principe d'un rapatriement au cas par cas, la commission a constitué un groupe de travail et procédé à l'audition de plusieurs acteurs judiciaires, sociaux et politiques. 300 enfants dont la plupart ont moins de 5 ans sont actuellement présents dans les trois camp du nord-est syrien, indique la CNCDH, qui présente leur rapatriement comme une exigence d'ordre humanitaire. Leurs conditions de vie déjà inacceptables se dégradent de jour en jour. La commission estime qu'on doit les traiter comme des victimes, victimes des djihadistes et de l'embrigadement idéologique de leurs parents, a supposé même que certains aient été recrutés comme enfants soldats. Dans sa réponse, le Premier ministre avait objecté que les ressortissants français retenus dans ces camps ne relevaient pas de la juridiction de la France. Argument réfuté par la CNCDH, d'autant que les forces démocratiques syriennes ont appelé à plusieurs reprises les États à rapatrier leurs ressortissants. Comme en écho aux appels lancés par les familles et aux recours engagés par leurs avocats, la CNCDH parle même d'un déni de justice. Elle se déclare par ailleurs consciente des difficultés d'ordre pratique que pose le rapatriement de tous ces enfants, notamment pour les départements responsables de leur accueil. Mais un nouveau refus, estime-t-elle, caractériserait une violation manifeste des droits fondamentaux, une atteinte grave aux valeurs de la République.
Au procès de l'attentat djihadiste raté près de Notre-Dame de Paris en septembre 2016, la cour d'assises spéciale entendait aujourd'hui Inès Madani. C'est l'une des 8 accusées et c'est elle qui avait conduit la voiture remplie de bonbonnes de gaz rue de la Bûcherie à Paris. Vous avez suivi l'audience, Antoine Marette.
Effectivement, Inès Madani reconnaît les faits de la rue de la Bûcherie. En revanche, elle nie la tentative d'assassinat sur un policier qui essayait de l'arrêter quelques jours plus tard. Je n'ai pas essayé de me jeter sur lui, j'étais éloigné de lui, je lui ai demandé de me tirer dessus. Car Inès Madani avait des pensées suicidaires et le martyr était pour elle une façon de mettre fin à ses jours compatible avec l'islam. Mais l'avocat général soulève une contradiction. Mettre des bombes dans une voiture et partir ensuite, ça n'est pas du martyr. Réponse d'Inès Madani, c'était pas prévu à la base, je comptais rester dans la voiture, mais au dernier moment, Ornella Gilligman, la coéquipière, m'a convaincu de sortir du véhicule. Le président s'intéresse au parcours religieux de la jeune femme. Elle est issue d'une famille musulmane. Jusqu'en 2014, elle est pratiquante sans excès, se contentant des prières et du jeûne. Elle est d'ailleurs une consommatrice régulière de cannabis et d'alcool. Et puis il y a cette rencontre avec une certaine Anissa, dont elle garde l'enfant. Anissa part rejoindre l'État islamique en 2015. Après avoir fortement influencé Inès Madani. Celle-ci prévoit même un départ en Syrie en janvier 2016, mais elle est finalement interdite de sortie du territoire. Depuis cette rencontre, la jeune femme s'intéresse de près à Daesh. L'avocat général l'interroge sur les attentats qui ont ensanglanté la France, en particulier en 2015 et 2016. Qu'avez-vous éprouvé face à tous ces morts ? Réponse de la jeune femme, je me posais des questions, j'ai fini par accepter la théorie selon laquelle de nombreux civils innocents mouraient aussi en Syrie et en Irak. Et qu'avez-vous éprouvé en voyant les vidéos de Daesh montrant des décapitations ? Je regardais par curiosité. Une simple curiosité qui a tout de même conduit la jeune femme à visionner à de nombreuses reprises ces images de propagande très violentes. Aujourd'hui encore, elle ne semble pas mesurer la gravité de ce qu'elle représente.
Antoine Marette, tout l'audiovisuel public sera rassemblé au sein d'une même entité. France Média est appelée à devenir la société mère qui chapeautera Radio France, France Télévisions, l'INA, RFI et France 24. Annonce faite par le ministre de la Culture, Franck Riester, ce matin. Une réforme qui sera discutée en janvier au Parlement pour adapter le service public à la convergence des médias, à la révolution numérique. Mais en interne, cette réforme peine à convaincre syndicats et salariés, d'autant que la redevance qui finance le service public va diminuer, Maxime Tellier.
Oui, c'est un paradoxe que ne manque pas de noter les représentants des salariés. Dans les discours officiels, le gouvernement clame son attachement, son ambition pour un service public fort dans cette nouvelle ère du numérique. Sa recette est donc de regrouper des sociétés qui étaient séparées depuis l'éclatement de l'ORTF il y a 45 ans. Cette mesure ne convainc pas les syndicats, mais ces derniers sont sceptiques aussi car ils regardent le nerf de la guerre, à savoir l'argent. Or, les plans d'économie sont maintenus, 190 millions d'euros en moins d'ici 2 ans, et la redevance va baisser. 1 euro de moins, de 139 euros aujourd'hui, on va passer à 138 l'an prochain. Et cette affaire-là, qu'on pourrait appeler l'affaire de l'euro symbolique, a du mal à passer. Serge Simino est le délégué du SNJ à France Télévisions, le syndicat national des journalistes.
On nous enlève des ressources, parce que parlons quand même de ce tour de passe-passe sur la redevance. On nous dit que la 139 euros, elle a été mieux collectée, et donc il y a un trop-plein. Et ce trop-plein, soi-disant, va le rendre aux Français. Enfin, c'est hallucinant. On nous enlève encore des moyens. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas faire des efforts, on fait partie de la société, on voit bien que les caisses ont du mal à se remplir. Mais quand elles se remplissent, ça se retourne aussi contre nous. Alors on peut dire que ce n'est pas grand-chose. Mais c'est le signe qui est envoyé. C'est-à-dire qu'au même moment où on nous dit on va renforcer l'audiovisuel public, on l'affaiblit financièrement en lui demandant des économies sans précédent et en plus en considérant que le trop-plein de la collecte de la redevance ne bénéficierait pas aux entreprises concernées.
Et certains syndicats parlent même d'une réforme gilet jaune destinée à calmer la colère d'une partie des Français. La redevance, elle, sera bientôt adossée à l'impôt sur le revenu et plus à la taxe d'habitation qui va disparaître. Mais pour combien de temps ? Ce matin sur France Inter, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin s'est dit hostile à titre personnel à cet impôt qui correspond, je cite, à un ancien monde des médias.
Maxime Tellier. Le syndicat de police Alliance demande à Christophe Castaner de déposer plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Le syndicat appelle par ailleurs à une manifestation de policiers demain devant le siège de la France Insoumise. Un peu plus tôt, il y a eu des échanges d'amabilité entre le ministre de l'Intérieur et Jean-Luc Mélenchon. Le point de départ, Stéphane Robert, ce sont des propos tenus par le chef de file de la France Insoumise en marge des manifestations contre la réforme des retraites hier à Paris.
Oui, cette affaire débute hier lors des manifestations, vous le disiez, contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon s'adresse à des manifestants en présence de plusieurs caméras et il leur dit ceci.
C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Hein.
Et il ajoute en s'adressant à un manifestant en particulier, samedi, si j'y avais été, ils me tuent, tu vois, ils attendent le prétexte, et puis après, c'est moi qui pleure de voir qu'ils vous éborgnent. Ces propos ont suscité l'exaspération des policiers, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a exigé des excuses, et puis le délégué général du syndicat de police Alliance, Frédéric Lagache, a demandé à son ministre d'aller plus loin, de porter plainte, avant d'appeler les policiers à manifester demain, 11h, devant les locaux de la France Insoumise à Paris.
À un moment donné, il faut que tout ça s'arrête. Ces provocations, ces insultes et ces intimidations. Moi, les gars, ils n'arrêtent pas de bosser tous les week-ends. Et entendre dire que ce sont des barbares alors qu'on a plus de 1800 aussi blessés, il faut arrêter à un moment ou à un autre. C'est un élu de la République, il doit avoir du bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas ces provocations et ces intimidations.
On a là d'un côté un responsable public, Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve fragilisé politiquement dans une attitude de victimisation, ainsi qu'on a pu le constater la semaine dernière devant la justice. En face, il y a à la fois un malaise et une forme d'exaspération de la part de policiers confrontés à la violence dans des manifestations qui durent depuis maintenant des mois et qui ont bien du mal à répondre aux accusations qui leur est faites de faire de la répression. Et le malaise policier est, semble-t-il, croissant puisqu'une intersyndicale appelle à manifester mercredi la semaine prochaine un rassemblement dit de la colère qui entend alerter notamment sur une augmentation assez significative du nombre de suicides chez les policiers depuis le début de l'année.
Stéphane Robert, demain jeudi, ciel couvert et passage pluvieux, mais le soleil s'imposera sur le sud dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 10 et 20 degrés au petit matin. L'après-midi, 18 à 23 sur la moitié nord, 21 à 28 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.